Radio Okapi.
Madame, monsieur, bonjour. Le 20 mars, journée internationale de la francophonie. En RDC, l'événement est marqué par une touche particulière. Le chef de l'État a présenté officiellement la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais c'est quoi la francophonie et quelle place la RDC y occupe? Élément de réponse dans ce journal. Dans cette édition aussi, ce pas de géant vers la réduction du déficit en eau potable à Kinshasa. Tenez, les modules 2 et 3 de l'usine de la régie des eaux zone en Kalima vient d'être inauguré dans le cadre du projet Kinelinda. L'ensemble du complexe apporte 330 000 m3 de plus par jour, ce qui permet à plus de 5 à 6 millions d'habitants supplémentaires de bénéficier de l'eau. Comme invité aujourd'hui, l'administrateur du territoire de Fizio-Sud Kivu, environ 250 000 réfugiés congolais venus en majorité de cette partie de la province, vivent dans des conditions difficiles dans des camps au Burundi, à quand leur rapatriement volontaire au pays. Vous suivrez Sami Badibanga dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Le 20 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la francophonie. Entendez par là cet ensemble de personnes et d'institutions qui utilisent le français comme langue d'usage dans la vie de tous les jours. Pour marquer cette journée, le président de la République a présenté officiellement hier jeudi à la Cité de l'Union africaine la candidature de la Congolaise Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Par cet acte solennel, Félix Tshisekedi engage tout l'appareil diplomatique du pays derrière Juliana Lumumba. Cette désignation traduit aussi, selon les organisateurs, l'ambition renouvelée de Kinshasa de peser davantage dans les instances internationales et de porter une voix africaine forte au sein de l'espace francophone. Richard Junior Kamunga, c'est quoi la francophonie et quelle est l'importance de la RDC?
La francophonie représente plus qu'un simple espace linguistique. Elle constitue un ensemble culturel, politique, économique et diplomatique regroupant des nations diverses unies par l'usage du français. Au cœur de cette dynamique mondiale, la République démocratique du Congo occupe la première place centrale avec plus de 100 millions d'habitants dont une immense majorité utilise le français comme langue d'enseignement, d'administration et de communication interethnique. La RDC est aujourd'hui le premier pays francophone du monde en nombre de francophones. Ce statut confère au pays un rôle stratégique majeur pour l'avenir de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, regroupe 88 États et gouvernements. L'usage du français connaît une croissance notable, surtout en Afrique subsaharienne, région devenue moteur de la francophonie. En tant que premier pays francophone du monde, la RDC n'est plus seulement un espace où le français est parlé, elle est devenue un acteur majeur du destin même de la francophonie. Sa démographie, sa culture, sa géographie et sa jeunesse font du Congo un pilier incontournable.
Edzel Fritre, c'est aujourd'hui vendredi 20 mars, une fête qui clôture le mois du Ramadan observé par les musulmans pendant 30 jours. Dans la province du Maniema, bastion de l'islam en RDC, plusieurs sites ont été aménagés pour accueillir les fidèles musulmans à la prière de clôture de ce mois de Ramadan. Bien avant cette prière, les marchés de Kindo ont été inondés de clients venus se procurer de la nourriture ainsi que des vêtements pour cette fête. Florence Kizalunga nous décrit l'ambiance sur place.
Le marché se remplit sur un séjour de fête d'Eid el-Fitr. Les fidèles musulmans se pressent partout, qui pour acheter de la nourriture, qui pour des chaussures et vêtements, témoignent ces parents que nous avons rencontrés au marché.
Nous sommes venus nous procurer des soutanes pour les enfants et pour nous-mêmes, parce que nous préparons à la prière de vendredi. Ce vendredi saint, nous allons prier Eid Moubarak. Pour nous les musulmans, c'est la fête qui est autorisée, la fête d'Eid el-Fitr. Donc nous sommes très contents parce que nous avons jeûné pendant 30 jours et nous sommes arrivés à terme.
Les enfants manifestent aussi leur joie.
Ouais, je suis très content, on vient de m'acheter les habits pour la fête de Raïd. On est vraiment très content.
C'est Raïd chez nous, on nous a acheté les habits, on nous a acheté de manger, nous sommes heureux.
Eid el-Fitr, c'est aussi une période de bonne affaire pour les commerçants qui se frottent le même.
Les musulmans achètent beaucoup parce qu'il y a Raïdi. On achète les robes, les moutamas, les tasbiri. En tout cas, chez nous, il y a vente aujourd'hui.
Nasi ba uzishanyama, ba musulmans ba natuuza, tunamshukuru Mungu.
Ce matin, ils étaient nombreux pour se rendre à la prière du vendredi saint avant la fête qui suivra cet après-midi. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Kinshasa, il y a eu inauguration mercredi par le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité des modules 2 et 3 du complexe industriel de traitement d'eau de la régie des eaux située à Binsanzon dans la commune de Ngalima. C'est dans le cadre du projet de développement multisectoriel et de résilience urbaine de Kinshasa, Kinelenda. D'une capacité totale de 330 000 m3 par jour, cette infrastructure moderne permettra d'alimenter plus de 5 à 6 millions d'habitants supplémentaires. Juste au Mr. Bilanda pour d'autres détails.
Soutenu par la Banque mondiale, ce projet vise entre autres l'augmentation de la capacité de production d'eau potable. Cette montée en puissance constitue un progrès technique significatif en faveur de la régie des eaux pour la desserte en eau potable de la capitale. Les communes et quartiers bénéficiaires sont Bizaozon, Bandalungwa, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembao et Makala, où de nombreux ménages ont longtemps vécu sans accès régulier à l'eau potable au robinet. On écoute la joie de ces garçons. Dans notre quartier, l'eau ne coule pas des robinets. Je suis très content de l'inauguration de cette usine. Je ne veux plus me promener avec le bidon sur la tête pour aller chercher de l'eau. À travers cette inauguration, le gouvernement réaffirme sa volonté d'améliorer l'accès à l'eau potable, secteur essentiel pour la santé publique, la dignité humaine et le développement urbain. Dans son intervention, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a salué l'aboutissement de cet investissement structurant en soulignant son importance pour la résilience des Kinshasa et pour l'amélioration concrète des conditions de vie des populations bénéficiaires.
Les habitants du territoire de Nyunzu, province du Tanganyika, ont bénéficié hier jeudi de 7 centres de santé grâce au projet de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA. Estimé à 6 millions de dollars, ce projet exécuté durant 2 ans par l'UNICEF vise à réduire la mobilité, la morbidité et la mortalité d'au moins 35 000 enfants de moins de 5 ans dans la province du Tanganyika. Ces ouvrages ont été réceptionnés par le ministre provincial de la Santé. Autre précision avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces programmes adoptent une approche intégré multisectoriel, combinant des interventions en santé, en nutrition, en hygiène, assainissement et changement des comportements sociaux. Les chefs des sections en charge de la santé à l'UNICEF précisent que ces projets visent non seulement à améliorer l'accès aux services essentiels, mais également à renforcer la résilience des communautés et à contribuer durablement à la consolidation de la paix.
Les services de santé et les services sociaux de base sont un élément catalyseur pour favoriser encore cette restauration de la paix sociale.
La chef des missions adjointe de l'ambassadeur de la Corée en RDC est convaincu que la construction de ces centres de santé prouve une collaboration diplomatique entre Kinshasa et Séoul.
Je crois que ceci représente un exemple d'une meilleure coopération entre la République démocratique du Congo et la République de Corée.
Pour sa part, les médecins chefs des zones de santé de Nyunzu, Cosmas Kongolo, remercie l'UNICEF et la COICA pour la mise en œuvre de ces structures sanitaires.
Nous remercions vivement l'UNICEF et la République du Corée du Sud par ces gestes. Vous savez, on n'avait presque rien.
La ministre provinciale de la Santé du Tanganyika souligne que ce projet vient répondre aux besoins de la population retournée et déplacée après les conflits communautaires entre peuples étois et bantous.
Dans la province de la Tchopo, l'agonie de la rivière Aruimi mobilise les consciences dans le territoire de Basoko. Depuis 2023, les activités d'exploitation aurifère de la société Zhang China, menées à l'aide des dragues robotisées, provoquent une pollution massive des eaux. Entre violation présumée de clauses du permis de recherche et destruction des moyens de subsistance des populations de Likombe et Bahanga, le désastre environnemental prend une ampleur inquiétante. État de lieu d'une crise qui menace l'équilibre socio-économique de tout un secteur. Avec vous, Jacques Moukongolé.
À environ 135 km de Basoko centre, dans le secteur de Bangelema Munganjo, le paysage fluvial de la Rouimi a radicalement changé. Là où les pirogues glissaient jadis sur une eau nourricière, flottent désormais des dragues robotisées imposantes. Ces machines, déployées par la société chinoise Zheng China dans les villages de Likombe et Bahanga, sont au cœur d'une vive controverse environnementale et juridique. Selon des sources locales concordantes, l'entreprise ne disposerait pourtant que d'un permis de recherches. Cependant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Une exploitation intensive dès lors s'est installée de manière permanente depuis plus d'un an. Cette activité transforme la rivière en un réceptacle de sédiments et des produits toxiques, rendant la pêche quasi impossible pour les communautés locales. Pour les familles riveraines, les conséquences sont dramatiques. La navigation est devenue périlleuse et l'accès à l'eau potable, élément vital, est gravement compromis. Privés de leur principale source de revenus et de nourriture, les habitants expriment une colère grandissante face à ce qu'ils qualifient de pillage écologique. Malgré les alertes répétées, les activités se poursuivent, laissant planer une menace sérieuse sur la biodiversité de ce bras essentiel du bassin du Congo. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Commémoration hier jeudi à Kinshasa par la Banque centrale du Congo de la 4e édition de la Semaine mondiale de l'argent pour une immersion éducative au cœur de la culture financière. À cette occasion, les portes des installations de la BCC ont été ouvertes à la jeunesse, représentée par des élèves venus de plusieurs établissements scolaires de la capitale. Entre autres activités organisées sur place, une visite guidée suivie d'un échange pédagogique autour de l'argent et de la culture financière. Selon le gouverneur de la BCC, cette visite s'inscrit dans le cadre des activités organisées à travers du monde pour sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à la gestion de l'argent sous le thème de cette année « Parlons argent intelligemment ». Le gouverneur André Wamiso a rassuré ses hôtes que la Banque centrale du Congo veille à la stabilité de l'économie et du pays. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
L'économie est vaste et la Banque centrale doit veiller à la stabilité monétaire. La stabilité monétaire, la stabilité des prix, pour que quand on paye, que le pouvoir d'achat des ménages ne baisse pas avec la perte de valeur de leur monnaie, de leur salaire. Parce que s'il y a dépréciation de la monnaie, le salaire qu'on paye va perdre de la valeur. Préserver la valeur de la monnaie, c'est préserver le pouvoir d'achat de la population congolaise, donc c'est veiller à la stabilité de l'économie. Ça, c'est en termes de pouvoir d'achat, mais ça permet aussi aux opérateurs économiques de pouvoir mieux prédire, mieux se projeter dans l'avenir, de ne pas avoir de l'incertitude. Si les prix changent, il n'y a pas de stabilité, les entreprises aussi vont avoir des difficultés parce que c'est sur base de ça qu'ils fixent leur salaire, qu'ils fixent les dépenses qu'ils font. C'est en fonction du chiffre d'affaires qu'ils réalisent et ils réalisent ce chiffre d'affaires en fonction du prix auquel ils vendent leurs produits. Et il faut donc que ces prix restent stables pour que l'économie tourne bien.
André Wamiso indique qu'en sensibilisant les jeunes générations aux notions d'épargne, avec un focus sur la monnaie nationale de gestion budgétaire et d'utilisation responsable de ressources financières, la BCC participe à la construction d'une économie plus résiliente, inclusive et tournée vers l'avenir, parce que pour lui, une meilleure compréhension des mécanismes financiers contribue non seulement à responsabiliser les citoyens de leur plus jeune âge, mais également à renforcer la confiance dans la monnaie nationale et dans les institutions financières. Parlons sécurité. Au Nord Kivu, la population de Sake et des villages environnants déplore et dénonce l'insécurité grandissante ces deux derniers mois dans le groupement de Kamurunza dans les territoires de Masisi. La cité de Sake, c'est environ 30 km de Goma. Cette insécurité est caractérisée par une série de pillages chaque nuit attribués à des hommes armés non autrement identifiés. Plusieurs habitants de retournée, notamment ceux des villages Kimuka et Mubambiro, ont abandonné leurs habitations pour se mettre à l'abri de cette insécurité grandissante. Selon des sources locales. TDT avec vous, au Nancy Tambo.
Depuis le mois de février, plusieurs maisons ont été cambriolées par des bandits armés non identifiés selon des sources locales. Dans la nuit de vendredi à samedi, nos sources citent les braquages des deux boutiques situées non loin du centre de santé Sake Afia et des deux autres au marché central de Sake. D'autres boutiques situées au niveau du péage routier Sake Kichanga ont également subi le même sort. Les quartiers ciblés par cette insécurité sont ceux des mosquées Kiduki, Bikali, Virunga et Ndolero, mais aussi les villages de Kimo et Mubambiro dans le groupement de Kamurunza. Ces cambriolages qui surviennent généralement pendant la nuit inquiètent les habitants. L'identification des auteurs reste difficile dans une zone occupée par la FCM23 et où opèrent également des groupes armés Wazalendo. Selon nos sources, les victimes sont en majorité des retours. Plusieurs d'entre eux ont dû abandonner leurs habitations à cause de l'insécurité pour se réfugier vers des endroits plus sûrs.
Dans la même province, rendons-nous à Béni, où la MONUSCO en appui au FARDC poursuit ses opérations pour renforcer la protection des civils dans les zones sensibles au Nord Kivu et en Ituri. Entre escortes sécurisées, déploiement des bases mobiles et patrouilles conjointes, des forces onusiennes multiplient des actions sur le terrain. Nous faisons le point avec le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Charles Aïdjoua, au micro de Martial Papimoukeba.
La MONUSCO, en collaboration avec le FARDC, poursuit ses efforts pour assurer la protection des civils dans l'est de la RDC. Le 17 mars, en Ituri, nos éléments ont escorté en toute sécurité 9 civils, dont des femmes et des enfants, entre Bayo et Fataki. Cette intervention faisait suite à des préoccupations sécuritaires liées à des menaces de tir dans la zone. Auparavant, du 12 au 14 mars, à Malibongo, un contingent de la MONUSCO a déployé une base opérationnelle mobile afin de renforcer la présence sécuritaire et appuyer les communautés locales. Des activités civilo-militaires ont également été menées, notamment des actions de sensibilisation et une assistance humanitaire. Enfin, le 14 mars, dans le cadre de l'opération Uboja, une patrouille conjointe MONUSCO-FADC a été conduite sur l'As Oicha Mamouve dans le Nord Kivu. L'objectif était de dissuader les groupes armés, sécuriser cet as stratégique et renforcer la protection des civil.
Actualité internationale.
Au moins 18 Africains qui tentaient de rejoindre l'île française de Mayotte dans l'océan Indien se sont noyés au large des Comores, c'est ce qu'ont déclaré hier jeudi des responsables des sauveteurs, rapporte africanews.fr. 30 individus ont été retrouvés vivants après que des passeurs ont débarqué le groupe au large de la ville de Mitsamuli, à la pointe nord de la Grande Comore. Les survivants ont déclaré qu'ils venaient de la République démocratique du Congo et se dirigeaient vers l'île voisine de Mayotte.
L'invité.
Environ 250 000 réfugiés congolais vivent dans des camps au Burundi. La majorité se plaint de mauvaises conditions de vie. La plupart viennent du territoire de Fizi, dans le sud Kivu. À quand le rapatriement volontaire de ces réfugiés dans leur pays? L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Badibanga, est notre invité. Il répond aux questions de Jean Kassami.
Bonjour Sami Badibanga.
Bonjour monsieur.
Quid du retour volontaire des réfugiés congolais vivant dans les camps au Burundi?
Les retours volontaires des Congolais se trouvant au Burundi et enfouis les atrocités de M23 avec la prise de la ville d'Uvira le mardi 16 décembre 2025 est conditionné par la tripartite englobant le gouvernement congolais, le gouvernement burundais et le partenaire ACR. Cette question est traitée au plus haut niveau et j'ose croire que Monsieur l'Excellence, le gouverneur de province Jean-Jacques Opokoussi se prononcera incessamment sur ce dossier. S'il est concerné, le réfugié congolais se trouvant au Burundi estime qu'ils sont prêts à regagner leur pays d'origine et que toutes les conditions sécuritaires sont garanties. Nous leur souhaitons un bon retour au bercail dans leur pays d'origine. Et les territoires de Fizi, leur territoire d'origine, est disposé à les accueillir sans en condition.
Peut-on dire aujourd'hui à ces réfugiés que les conditions d'accueil sont réunies dans leur milieu de retour?
Sur le plan sécuritaire, plusieurs cas d'assassinats ciblés sont signalés dans tous les 4 secteurs qui composent le territoire de Fizi. Les victimes sont des personnes de troisième âge soupçonnées d'être des sorcières. Les secteurs de Tanganyika bat les records avec plus de 12 personnes tuées pour les mêmes motifs. Dans les hauts plateaux de Binembwe, les affrontements se poursuivent et nos FARDC résistent et repoussent les pro M23, notamment le Red Tabara, Turaneo, FNL, Ngomino, aux forces coalisées du Kenya et de la Somalie. Minembwe étant le puissantre de tous ces affrontements, nous attendons sa reconquête par le FARDC appuyé par le Wazalendo.
Au-delà de la dégradation de l'aspect sécuritaire à Fizi, les catastrophes naturelles aussi sont légion.
Le territoire de Fizi connaît ces derniers temps de très fortes pluies Ces dernières sont accompagnées de vents violents et de tonnerres. Elles sont responsables de plusieurs catastrophes naturelles, dont le bâtiment administratif du territoire de Fizi a été victime. La toiture du bâtiment emportée par le vent violent, ça fait pratiquement 2 semaines et demie. La crue du lac Tanganyika, des rivières, le fait des brousses, l'abattage abusif des arbres, l'éboulement des terres dans des villages, carrières minières, causant de pertes en vies humaines et de biens de valeur, sont le résultat de la destruction de l'écosystème par nous et la disparition de la biodiversité, source de vie végétale. Je lance un appel à tous les habitants du territoire de Fizi de pouvoir penser à conserver la nature. Conserver la nature, c'est refuser d'abattre inutilement un arbre. Conserver la nature, c'est refuser de tuer un animal sauvage. Conserver la nature, c'est reboiser les espaces verts, c'est reboiser les écoles, les avenues, c'est reboiser les collines, reboiser notre milieu naturel. Dans nos parcelles, chaque habitant doit pouvoir planter 3 arbres, 2 arbres fruitiers et 1 arbre ombragé. Une fois que toutes ces conditions sont réunies et que ces espaces verts, les collines, les écoles, les avenues, la RN5 sont reboisées, et ces catastrophes naturelles cesseront.
Merci, Monsieur Sami Badibanga.
Je vous remercie aussi.
Sami Badibanga, administrateur du territoire de Fizi. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Richard Jean Kamunga, mis en onde par André Mongo avec Babel Pongo Massimango à la présentation. Bon après-midi.